tous. Qui a été écouter la prédication de vendredi soir? Ça vous a plu? C'était un petit peu spécial. Ce matin, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, bien que l'autre n'était pas sans sériosité, comme diraient nos amis les gitans. La sériosité. On va se lever et on va lire Actes chapitre 2, verset 38. Il faudra faire des cassettes de la prédication, enfin des CD, ou je ne sais pas ce que tu fais, Jean, pour les sœurs et les frères qui n'ont pas Internet chez nous, pour qu'ils puissent l'avoir. Merci. 2:38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit... » Ben, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'était au sujet de... Oui, remarque, on peut le dire. On peut le dire aussi parce qu'il est question de la même chose, c'est vrai. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça dont je veux parler ce matin. Amen. Dieu vous bénisse. Le don du Saint-Esprit. Le don. Qu'est-ce qu'un don? Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans savoir ce que signifie vraiment donner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas, mais faire un cadeau, souvent, quand ils font un cadeau, quand ils offrent quelque chose, eh bien, il y a une arrière-pensée derrière, voilà. Mes frères et sœurs, tant qu'on n'a pas expérimenté, fait l'expérience d'un don de Dieu, eh bien, je crois que nous ne savons pas donner. C'est pas donné. Et nous ne comprenons pas tout ce que cela implique de donner. Regardez, par exemple, Jésus dit qu'il donne, mais ne se repent pas de ses dons. Voilà pourquoi vous avez des gens qui font des miracles, mais qui n'ont pas une vie correcte. Et alors on se dit, mais comment c'est possible? C'est bizarre. Parce que Dieu ne se repent pas ni de son appel, ni de ses dons. On parlait avec Raphaël et Violette de quelqu'un qu'on connaît, et qui est à Paris, qui est extraordinaire et tout. Mais bon, quand on connaît quel est le bonhomme, ben voilà, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Dieu seul sait à quel point moi je désire ce qu'il a de meilleur pour moi. Je pense que c'est pour vous la même chose, et combien je convoite ces plus grands dons, enfin ceux que j'estime être les meilleurs. Et on a le droit de convoiter ces dons, on a le droit. Mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit que nous devons les quémander. Dieu lui donne spontanément. Ça vient de son cœur généreux. Alors bien sûr, on essaye de vivre pour lui plaire, on essaye de faire le mieux possible, mais souvenons-nous, que ces dons sont immérités. Aucun de nous n'est digne des bénédictions de Dieu. Aucun. Pour dire ça autrement, je dirais que nous ne pouvons pas travailler pour obtenir un don. On reçoit parce que le donateur veut bien nous donner et que cela vient de son cœur. Un don, ce n'est pas une récompense pour ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas faire une espèce de petit chantage avec Dieu pour ça. Vous n'avez pas à quémander. Dieu vous le donne parce qu'il a voulu vous le donner. Et en le donnant, eh bien Dieu, il reçoit autant de joie que celui qui reçoit. C'est pourquoi il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc Dieu aime donner. Alors, on dit couramment qu'il y a 9 dons de l'esprit. On regarde dans Corinthiens, on dit il y a 9 dons de l'esprit. J'ai fait 3 écoles bibliques. Dans les 3 écoles bibliques, on nous a enseigné il y a 9 dons de l'esprit. Vous allez dans les églises, on vous dit il y a 9 dons de l'esprit. Mais pardon, moi je crois qu'il y en a beaucoup plus. Ça va à l'infini. Bon, c'est vrai que Paul, là, il parle de 9 dons, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça. Quand on est né de nouveau, quand on est immergé dans le Seigneur, alors le Saint-Esprit se manifeste, c'est lui qui opère toutes choses au travers de nous. Nous abandonnons notre volonté humaine pour pouvoir accomplir la volonté de celui qui vit en nous et en qui nous avons été immergés, plongés. Alors, regardez, Jésus lui-même, il a dû abandonner sa propre volonté parce qu'elle était différente de celle du Père, elle différait de celle du Père. Il a dû l'abandonner. Cet être divin, Jésus, était aussi homme que vous pouvez l'être, enfin, à part les femmes, évidemment. Mais Jésus, je veux dire, était humain, autant que vous pouvez l'être. Et sa volonté d'homme était de tout lâcher, de se laisser mourir, alors que le diable était en train de le tuer, là, au jardin de Gethsémané. Il était sur le point de tout lâcher. C'est écrit, il était triste à mourir. Il le dit. Et il dit, mon Dieu, enfin, que ta volonté soit faite. Parce que lui ne pouvait plus. Il savait qu'il était venu pour aller sur la croix, mais étant blessé par Satan dans ce jardin, il avait même l'aorte qui avait sauté. Vous savez, je me suis fait opérer de l'aorte. Ben, c'est ça qu'il a eu, Jésus. Son aorte a sauté, son sang s'est répandu à l'intérieur. Il suait des grumeaux de sang, c'est-à-dire que son sang sortait par les pores de la peau. Fallait-il qu'il souffre? Il n'en pouvait plus. Et il a demandé, mon Père, mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Matthieu 26, 39 et Hébreux 5, 7 nous dit qu'à ce moment-là, il a été exaucé. Il a été exaucé, c'est-à-dire que Dieu lui a donné la possibilité d'aller boire la coupe qu'il devait boire, celle de la croix, et non pas celle que Satan lui tendait dans le jardin de Gethsémané. Vous voyez, en tant qu'homme, il avait donc une volonté qui était distincte de celle du Père. Bonjour.
Bonjour, Jean.
Mais quand il s'abandonna entre les mains du Père, le Père a pu utiliser ce vase, ce corps, pour la grande œuvre, c'est-à-dire pour la croix. Tant que Jésus gardait sa volonté distincte de celle du Père, impossible. Et même le diable était capable de tuer Jésus là au jardin. Mais à partir du moment où Jésus a remis sa volonté, a renoncé à sa volonté, alors Dieu a pu utiliser ce corps d'homme pour aller faire la plus grande œuvre qui ait jamais été faite sur cette terre, c'est-à-dire le sacrifice. Dieu ne veut pas utiliser vos talents humains à moins que vous ne vous abandonniez à lui. Et quand nous sommes livrés à lui, seulement là, il nous utilise, se manifestant comme il veut au travers de nos corps. Mes frères et sœurs, je ressens ce que le Saint-Esprit m'a confié comme quelque chose de tellement sacré. Je ressens cela comme quelque chose de si précieux, comme un si grand trésor. C'est ce que j'appelle la manifestation de l'Esprit. Je suis bien conscient que ça ne vient pas de Michel Janton. Là, je vais partir encore à Cotonou, il va se passer des choses, je sais bien que ce n'est pas moi. Mais parce que je livre ma volonté, parce que je me livre dans les mains de Dieu, alors ces choses se passent. Ça se passe par moi, c'est vrai, mais ce n'est pas moi. Vous voyez, nous ne possédons rien de par nous-mêmes. Sans la manifestation du Saint-Esprit, l'homme, le chrétien, n'est que chair, os et sang. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui donne la guérison. C'est le Saint-Esprit qui donne la prophétie, qui donne le parler en langue, qui donne la patience, qui donne toutes ces choses. Toutes ces choses sacrées. Toutes ces choses saintes. Mais ces choses sacrées ne passent par l'homme que si celui-ci renonce à sa volonté humaine. Voilà pourquoi on parle de la manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Quand on lit, par exemple, les récits que font les apôtres, des manifestations de la puissance de Dieu dans leur vie, on est émerveillé. Quand on écoute T.L. Osborne nous raconter sa vie extraordinaire et les miracles extraordinaires, on est émerveillé. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, que nous connaissons le même Saint-Esprit que ces grands hommes de Dieu. Le même Saint-Esprit. Les apôtres et les chrétiens de l'Église primitive ne pouvaient pas accomplir de choses surnaturelles que dans la mesure où c'était le Saint-Esprit qui les animait. Le même Saint-Esprit que celui que nous connaissons. L'Esprit de Dieu animait le corps de Jésus homme. Le corps humain de Jésus, si vous préférez. C'est ce qui lui donna la force, mes frères et sœurs, de se sacrifier à notre place sur la croix. Vous voyez, je dis ces choses pour que vous compreniez que Jésus faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai, mais il n'avait pas en tant qu'homme ni la puissance de guérir les malades, ni la puissance de ressusciter les morts, ni la volonté, ni la force de monter jusqu'à la croix. C'était la manifestation de l'Esprit de Dieu qui était en lui. L'homme, Jésus, avait besoin de l'Esprit Saint qui était venu sur lui au Jourdain pour accomplir les miracles. Matthieu 3, 13. Ce n'est pas juste pour que les peintres puissent faire des beaux tableaux de Jésus dans l'eau avec une colombe au-dessus de lui que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. La Bible nous dit dans Actes 10, 38, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il était Dieu, mais Dieu était avec lui, avec l'homme. La puissance du Saint-Esprit ne se cantonne pas aux neuf dons dont Paul nous parle. C'est juste, il nous en donne neuf comme ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il lui a fallu la puissance divine pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix. Il savait qu'il était venu dans ce monde pour se donner en sacrifice en notre faveur, pour nous, à notre place. Mais devant l'horreur de la chose, devant l'imminence de la chose, l'événement allait se produire là, dans les heures qui suivaient. Sa volonté humaine ne suffisait pas. Et mes frères et sœurs, voilà pourquoi vous échouez parfois à vous sacrifier pour les autres. C'est parce que vous êtes encore charnel. Quand je dis vous, bon, c'est pareil, hein, on est des êtres humains. Votre volonté humaine, elle est distincte de celle du Père. Alors, vous vous sentez attristé, vous vous sentez abattu, vous vous sentez découragé, vous vous sentez méprisé, méprisable lors des épreuves. Mais Jésus ressentait ça aussi. C'est écrit dans Matthieu 26, 38 que Jésus se sentait triste à mourir. Mais Jésus remit sa volonté humaine insuffisante entre les mains du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Ne pensez pas que par vos efforts personnels, vous allez pouvoir arriver à faire la volonté de Dieu. Vous essayez d'être patient, vous êtes foutu. Vous essayez d'être bon, c'est foutu. Vous essayez d'être gentil, c'est foutu. C'est pas possible. Il faut que vous alliez à Gethsémané, mes frères et sœurs. Il faut que vous alliez à Gethsémané. Et que vous disiez, mon Dieu, je suis triste, je me sens floué, je me sens blousé, je me sens malheureux, je suis pas bien, on se fout de ma gueule, je suis pas bien, on me vole, on me spolie. Mais mon Dieu, je suis en train d'être pris pour mon Dieu, que ta volonté se fasse, parce que moi je peux pas la faire. Vous comprenez? Comment marcher dans l'amour? Comment agir comme Jésus qui nous a tant aimés, qu'il s'est offert en sacrifice pour Dieu, pour un sacrifice à Dieu pour nous. Comment arriver à marcher dans l'amour? Et c'est écrit dans 1 Jean 3,16 que comme Christ s'est offert pour nous, nous devons nous donner pour les frères. Ah, mais comment? Si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas, et je comprends que vous ne puissiez pas. Comme une véritable offrande qui plaît à Dieu. Un parfum, une offrande dont le parfum plaît à Dieu. Voilà ce qui est écrit. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, même dans les petites broutilles des choses de la vie quotidienne, on est vaincu, mes frères et sœurs, si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit ne sert pas qu'à parler en langue, à prophétiser, à guérir les malades. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de gens disent ça parce qu'ils ne guérissent pas les malades, parce qu'ils ne parlent pas en langue et parce qu'ils ne prophétisent pas. Moi, je fais ces choses. Donc, je sais que c'est par le même Saint-Esprit qu'on guérit les malades qu'on peut manifester la bonté, la puissance de l'amour et toutes ces choses. Mais ça ne marche pas tous les coups. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels et nous avons besoin de nous remettre toujours à Gethsémané. Comment souffrir les injustices? Avec la chair? Comment consentir à se laisser dépouiller de nos droits? Avec l'aide de la chair? Comment consentir à subir des dommages? Avec l'aide de la chair? Paul dit, vous n'y arrivez pas, c'est la preuve d'un état alarmant. Ce que je vous dis là, souffrir des injustices, consentir à se laisser dépouiller de nos droits, consentir à subir des dommages, il dit, vous n'y arrivez pas? Eh bien, c'est la preuve d'un état alarmant. 1 Corinthiens 6, 7, parole vivante. Vous voyez, mes frères et sœurs, un état alarmant. Dans quel état êtes-vous? Sonnette d'alarme. Alarmant. Il dit aussi, vos mésententes sont à elles seules un aveu de défaite. Même verset. C'est au jardin de Gethsémané que le Père vous attend. Il veut tous porter sa croix. Ben avant de porter sa croix, il faut d'abord aller au jardin de Gethsémané. Jésus, avant de porter sa croix, il a d'abord été au jardin de Gethsémani. Mon Dieu, non pas ma volonté, moi je ne veux même pas porter ma croix, mais que ta volonté soit faite. Amen. Bon, je ne veux pas, Dieu ne veut pas que vous offriez un sacrifice pour le salut des gens. C'est pas le but de votre sacrifice, que le sacrifice attend, que Dieu attend de vous, c'est pas que vous vous sacrifiez pour le salut des gens. Ce n'est pas la même nature de sacrifice que le sacrifice de Jésus, mais c'est un sacrifice quand même que Dieu attend de vous. Il veut que vous offriez un sacrifice pour sa gloire, pour démontrer que vous n'êtes pas de ce monde. Et ce n'est pas un sacrifice d'une brebis, d'une vache, d'un veau ou je ne sais quoi, c'est le sacrifice de votre vie. Alors vous voyez, il n'y a pas que 9 dons surnaturels. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas au travers des enfants de Dieu que pour parler en langue, que pour prophétiser, que pour guérir les malades, etc. Mais aussi, et je dirais même surtout, pour que nous offrions à Dieu, que nous nous offrions à Dieu comme un sacrifice vivant. Souffrant d'être maltraité, souffrant d'être jugé, souffrant d'être critiqué, souffrant d'être incompris, souffrant d'être méprisé, souffrant d'être rejeté, souffrant d'être dépouillé, souffrant d'être calomnié, souffrant d'être sali, souffrant d'être dépouillé de nos droits les plus légitimes. Voilà ce que Jésus attend de nous, que nous nous offrions à Dieu comme un sacrifice vivant, souffrant toutes ces choses, toutes ces horreurs. Notre chair n'aime pas ça. Notre chair ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. C'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous donner cette puissance. Et voilà pourquoi je dis que c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Les gens qui n'ont que leur faculté naturelle, la Bible dit qu'ils ne sont pas en mesure de percevoir ces choses. Par exemple, ils ne peuvent pas percevoir pourquoi Dieu veut que nous souffrions. Dieu veut que nous souffrions, mais ras-le-bol de ses prières toujours pour éviter les souffrances. Mais merci Seigneur que vous avez des frères et des sœurs qui vous cassent les pieds. Mais dites merci Seigneur, c'est que ça les souffrances que tu m'imposes, Seigneur. Mais merci, ça pourrait être la torture. Alors on prie pour les chrétiens qui sont torturés. Et puis vous, parce qu'il y a un frère qui vous lime comme ça, qui vous agace, vous n'êtes pas capable de souffrir ça. Vous êtes en train de dire, Seigneur, délivre-moi. Non, je ne te délivrerai pas. Je veux que tu sacrifies ta vie dans cette souffrance. Ouh ! Quel évangile ! Eh bien, pourtant, c'est la Bible, mes frères et sœurs. Lisez votre Bible. Arrêtez de lire une Bible pentecôtiste, de bonnes nouvelles continuellement, de bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles positives, positives, positives. Non, c'est faux. Wow. Je me sens très bien quand je dis ça. Les gens irrégénérés, la Bible dit, n'acceptent pas les dons de Dieu, n'acceptent pas les vérités spirituelles, n'acceptent pas. Parce que c'est la chair. Ces choses leur apparaissent comme une pure folie. C'est ce que l'apôtre nous dit. Une pure folie. On essaye toujours de s'en sortir. On n'essaye pas. On ne dit pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vas-y, encore un coup. Pourtant, c'est ce que Dieu veut. Cultivez votre vie spirituelle, votre communion avec Dieu, l'étude des Écritures saintes. Cultivez la contemplation. Vous serez de plus en plus à même d'apprécier les idées de Dieu, de les comprendre, de comprendre les faits de Dieu à leur juste valeur. Mais si vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et vous vous plaignez et vous vous murmurez et vous agissez d'une façon mauvaise. Et alors, après, comme vous n'avez rien compris, quelque temps après, le Seigneur vous laisse vous reposer et il vous fait repasser par le même truc avec d'autres personnes, mais c'est le même truc qui vous arrive. Et vous dites, mais je ne comprends pas, Seigneur, alors qu'est-ce qu'il fait ? Seigneur ! Qui peut connaître la pensée du Seigneur ? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit du Seigneur. Ça ne veut pas dire ceux qui se sont mis un jour à parler en langue. Mais ceux qui ont reçu, comme on reçoit quelqu'un, comme on est d'accord de vivre en communion avec une personne, ceux qui ont reçu, ceux qui vivent en communion avec le Saint-Esprit, ceux qui se laissent influencer par le Saint-Esprit, ceux qui se laissent imprégner par la pensée du Saint-Esprit, ceux-là peuvent connaître la pensée du Seigneur. La Bible dit, qui peut connaître la pensée du Seigneur? Ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, parce que ceux-là possèdent la pensée même de Christ. Ah. 1 Corinthiens 3, 14, 16. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous connaissez la pensée de Christ. Pas du tout. Vous connaissez la pensée de Christ quand vous en êtes arrivé au point de Gethsémane et de dire, mon Dieu, que ta volonté soit faite et que vous commencez à porter votre croix et que vous allez être crucifié. Là, vous connaissez la pensée de Christ. Pas avant. Alors, pourquoi tant de problèmes dans les églises?
Et ici?
Eh bien, parce que les chrétiens ont une volonté distincte de celle de Dieu, c'est tout. Ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas se soumettre. Qu'on ait une volonté distincte de celle de Dieu, c'est normal. Jésus lui-même avait une volonté distincte de celle de Dieu. Mais Jésus, lui, voulait se soumettre. Il voulait obéir. Alors, comme ils ne veulent pas, ben ils passent par les épreuves correctement. Ils sont les blessés de la vie. Et ils s'aigrissent. Et comme Dieu veut les amener à se sacrifier eux-mêmes parce qu'il veut ça, un sacrifice vivant, il le veut, Dieu le veut, c'est pour sa gloire. Alors les épreuves reviennent encore et encore et encore et ils ne comprennent pas. Et à la fin, ils se demandent, mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Et alors, mais avant de penser ça, ils pensent, c'est le diable qui m'attaque. Foutaise! Quelle misère! Mais quelle misère! C'est écrit que les gens irrégénérés ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez, même des chrétiens sont dans ce cas-là. Mais c'est grave, c'est grave. Penser comme ça, c'est penser avec l'esprit du monde. Je suis désolé. L'esprit du monde, ce n'est pas seulement d'écouter Sylvie Vartan. L'esprit du monde, ce n'est pas d'aller dans les bons restaurants et manger des bonnes choses chères avec des bons vins. Même de fumer un cigare, c'est pas ça l'esprit du monde. Zut à la fin pour ces infantilismes religieux. L'esprit du monde, c'est de refuser que la volonté de Dieu soit exactement la même que la nôtre. Que nous arrivions à faire un avec la volonté de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu afin de parler en langue. Non! Afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, dans son amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa gloire. 1 Corinthiens 3:12. Bien sûr, parler en langue. Mais surtout, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu, dans son amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa gloire. Le don de la puissance d'accepter, d'être méprisé, d'être dépouillé de nos droits, etc., etc. Mes frères et sœurs, tout ce qui concerne notre existence devient alors spirituel. Tout. Question. Sans Judas, y aurait-il eu la croix? Pas de croix sans Judas. Sans les Romains qui sont venus chercher Jésus au jardin de Gethsémané, y aurait-il eu la croix? Pas de croix. Sans Pilate, pas de croix. Sans Hérode, pas de croix. Sans la foule complètement folle qui hurlait, pas de croix. C'est-à-dire pas de salut ni pour vous ni pour moi. Il fallait ces gens-là. Toutes ces choses difficiles, toutes ces méchantes personnes étaient sous le contrôle du Père pour une raison immense. Mettre Jésus sur la croix. Il fallait que Jésus, homme, règle sa volonté sur la volonté du Père, accepte Judas, accepte les Romains, accepte Hérode, Pilate, la foule, toutes ces horreurs, les coups de fouet, les épines. Il fallait qu'il accepte tout ça pour pouvoir être un sacrifice agréable à Dieu. Et nous devons aussi offrir nos vies en sacrifice pour nos frères, un sacrifice agréable à Dieu.
Seigneur, délivre-moi de ce frère qui me casse les pieds. Seigneur, délivre-moi de ces sales enfants qui m'emmerdent. Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de ça.
Mais non, je ne veux pas te délivrer, tu ne comprends pas. Je te fais passer une épreuve pour que tu en sortes grandi et que ma gloire éclate.
Ah bon?
Oui, c'est ça. Il fallait que Jésus, homme, règle sa volonté sur la volonté du Père, comprenne quelle était la volonté de Dieu, comprenne le plan de Dieu, comprenne l'importance de la souffrance, à quoi elle mène, pourquoi elle existe, pourquoi Dieu veut qu'on passe par ces souffrances. Toutes ces choses difficiles, tous ces gens pénibles sont sous le contrôle du Père, même moi quand je ne suis pas gentil avec vous des fois. Il suffit que vous soyez réglés sur la volonté du Père et vous passerez les épreuves brillamment. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir brillamment et que vous ne serez pas épargnés. Ce n'est pas ça du tout. Mais votre sacrifice sera un sacrifice qui plaira à Dieu. Parce que vous n'aurez pas bronché. Mes frères et sœurs, vous savez ce que veut dire suivre le Saint-Esprit? Vous savez ce que signifie attendre quand il nous dit attends? Savez-vous ce que ça veut dire exercer la patience quand vous avez envie d'aller plus loin, quand vous avez envie de foncer dans l'art des gens qui vous irritent. Savez-vous ce que ça veut dire désirer la volonté parfaite de Dieu plutôt plus que tout au monde? Oh, je sais très bien ce que vous ressentez ce matin, mais laissez-moi vous dire, vous redire, que vous ne connaîtrez jamais la volonté parfaite de Dieu tant que votre volonté et celle de Dieu ne seront pas devenues une seule et même volonté. Vous serez un enfant spirituel, un bébé pentecôtiste, c'est gentil, c'est joli, c'est mignon, mais c'est triste comme vie. Et tous les enfants, ils veulent grandir. Michael, tu veux rester comme ça toute ta vie ou tu te réjouis d'être un homme? Et il veut grandir. Hein? Lucas, tu veux rester petit comme ça ou tu veux devenir un homme, un archéologue? Et tu pars avec ta grosse Jeep dans les déserts et puis aller chercher les choses dans les montagnes comme un archéologue. Tu veux pas rester un enfant toute ta vie, ça te casserait les pieds. C'est bonheur d'être un enfant, mais finalement, il y a mieux. Eh bien, c'est la même chose avec Christ. Votre vie, c'est peut-être bonheur. Alléluia! Amen! Chaud de l'eau, goulou, goulou, goulou! Et tombé par terre, et fait des machins, mais c'est bien! Mais si ça se borne qu'à ça, mes pauvres enfants. Jésus a dû soumettre sa volonté à celle du Père avant d'aller à la croix. Portez votre croix, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas. Je peux pas. Je le sais. Ça fait des années que j'essaye. Si je ne vais pas d'abord à Gethsémané. Et Gethsémané, ce n'est pas une fois dans la vie. Ça doit se renouveler. Aller renouveler notre engagement envers Jésus-Christ. Ça n'a pas été facile pour Jésus, d'autant il était autant homme que Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous vous rendez compte? Ce verset, à la lumière de ce que je vous dis, la profondeur qu'il a, c'est au jardin de Gethsémané que les deux volontés ne deviennent qu'une. Mais c'est dans la souffrance du sacrifice réel que ces deux volontés se manifestent comme étant une seule et même volonté. C'est une chose de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais c'en est une autre d'aller la faire. Hein? On en est tous là, mais tous, mes frères et sœurs, ne pensez pas que je suis exempt. On en est tous là. Mes frères et sœurs, je parle ici d'une chose sacrée, que des milliers de chrétiens ne vivent pas, parce que c'est difficile. C'est difficile. Je parle ici d'être habité par le Saint-Esprit, afin que de nous coulent des fleuves d'eau vive et non des fleuves d'absinthe amère. On aimerait tous que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Elles ne couleront jamais avant que vous passiez par Gethsémané. Je ne parle pas ici d'une expérience émotionnelle qui ne dure que quelques minutes. Je parle ici de la vie entière. Beaucoup de gens s'imaginent que d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça prend quelques minutes. On est comme ça, secoué. Moi, c'était terrible quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais tellement secoué qu'il y avait une personne qui était là. Elle est partie en courant tellement qu'elle a eu peur. C'était fort, mais ça a duré quelques minutes. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'être immergé la vie entière. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Êtes-vous environné de difficultés? Votre faiblesse est-elle grande? Alors ayez foi en Dieu. Permettez-lui d'entraîner votre vie dans la tombe. C'est ça que Dieu veut. Que vous mouriez à vous-même. Que vous vous débarrassiez des vieilles hardes de la chair. On a encore vu ça vendredi passé pour ceux qui ont écouté sur Internet. La bonne nouvelle, c'est ça. Oui, mais moi j'aime la vie. Non, c'est pas cette vie-là que tu dois aimer. Tu te trompes, c'est là, il faut qu'elle aille dans la tombe. Elle vaut rien. Permettez-lui d'entraîner votre vie dans la tombe pour que vous puissiez avancer vivant en lui, avec lui, et grandir grâce à ses ressources glorieuses, à lui. C'est autre chose. Mes frères et sœurs, ce n'est pas par vos propres forces que vous resterez dans la victoire de Jésus. Jésus a remporté la victoire, mais vous ne resterez pas dans cette victoire par vos propres forces. Jésus a remporté la victoire, mais vous ne resterez pas dans la volonté de Dieu par vos propres forces. Jamais, 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 jamais. Car vos forces, elles ont des limites, vos forces, il y a des barrières. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Vous êtes faible. Ah, oh, c'est bien, moi, si je commence à prêcher. Dites, je suis fort par celui qui me fortifie. À tout le monde, je suis fort par celui qui me fortifie. Ouais, puis on les voit après. C'est juste du blablabla, émotionnel, du machin, un truc comme, vous savez, dans les supermarchés. Oh, mon lave plus blanc, répétez après moi. Oh, mon lave plus blanc, oh, mon lave plus blanc, alléluia. C'est pareil, c'est du baratin, c'est du blablabla, mais dans la vie réelle, c'est à Gethsémané que ça se passe. Dans la souffrance que ça se passe. Vous êtes faible, vous n'êtes pas fort. Vous êtes faible, mais en puisant dans les ressources, en puisant dans la puissance, tout ce qui est à lui devient vôtre. C'est comme ça. Mais ça, c'est vous qui devez aller puiser. Je ne peux pas puiser à votre place. Je peux vous exhorter, mais je ne peux pas puiser à votre place. Et vous arriverez à faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Et faire tout ce que vous ne pouvez pas faire, tout ce que vous n'aimez pas faire. Oui, j'aime pas, je ne me sens pas poussé à faire ça. Mais vous croyez que Jésus, il aimait aller à la croix? Vous croyez que Jésus se sentait poussé? Vous croyez que, oh, je me réjouis, c'est bientôt l'heure. Ouais, allons. Vous captez ces ressources d'amour et vous devenez capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Mais vous devez aller les capter, c'est vous qui devez vous régler. Personne ne peut vous régler à votre place. Que sa volonté soit faite et non la vôtre. C'est ça, être immergé dans le Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, ouvrons-nous à Dieu ce matin et recevons cette puissance chacun d'entre nous. On se met debout, on invoque le nom de Jésus pendant que le pianiste vient nous jouer quelque chose de doux. Nous nous mettons dans la louange et je vous demande de louer le Seigneur avec votre voix, mais pas avec une espèce de gnien. Je voudrais que vous y alliez avec force, avec puissance, et que vous louiez votre Dieu, et que vous invoquiez le nom de Jésus sur votre vie. Seigneur, j'y arrive pas par moi-même. Mon Dieu, aide-moi, secours-moi, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ce que je désire le plus, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Mais dites-le, exprimez-le avec votre... Quand vous avez quelque chose à exprimer, prrr, ça sort comme ça. Ben, la même chose, que ça soit quelque chose de bon, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique qui monte devant Dieu avec de la force, avec de la puissance. Amen. Louons le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez décidé? Te ressembler Jésus, le 51. Et après, les musiciens continueront à jouer et nous invoquerons chacun d'entre nous la puissance du Saint-Esprit sur nous.
Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi.
Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Oui Jésus, nous avons fait la comptabilité, nous voyons que nous sommes faibles, nous voyons que nous ne pouvons pas sans toi. Je vois que je ne peux pas y arriver. J'ai envie de baisser les bras, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus. Aide-moi Seigneur. Parce que je sais que je suis venu pour quelque chose sur cette terre. Je te prie de m'aider à le faire. Aide-moi, renouvelle-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin pour pouvoir le faire. Merci Seigneur, je te remercie d'avance Jésus. Et je veux bien y aller maintenant. Je veux bien y aller maintenant. Parce que je crois que tu es avec moi. Louange à toi. Que ta volonté soit faite, quoi que ce soit, mais que ta volonté soit faite. Oh Jésus, je veux faire ta volonté. Je t'aime. Je sais que tu veux le meilleur. Et si ici-bas, le meilleur doit passer par la croix, eh bien, ça passera par la croix. Et je sais qu'après la croix, il y a la résurrection. Je sais qu'après la résurrection, il y a l'accueil des anges. Je sais qu'il y a la gloire. Oh Père, je te demande que je passe par cette épreuve. Je te demande que je passe victorieusement par cette épreuve qui est la mienne en ce moment. Je te demande, mon Dieu, aussi pour mes frères et sœurs, qu'ils aient la foi pour passer au travers de leur épreuve avec le sourire, avec dans leur cœur, quelque chose de fort qui vient de toi, de ton cœur. Merci Jésus, merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah.
C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi.